Elles se multiplient 100 fois, 200 fois, parfois davantage à chaque génération, c'est-à-dire en quelques jours. Il y a comme une explosion démographique. Ça se produit, paraît-il, tous les 7 ans en moyenne. Et alors, par millions et milliards, elles forment des nuages, des centaines de tonnes qui sont transportées au gré des vents. Qui ça, elles ? Les sauterelles. Les sauterelles ou criquets pèlerins, qui constituent un des fléaux les plus redoutés de toute une zone de la planète. Il faut des pays à la fois chauds et secs, et nous savons que le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique orientale peuvent être gravement touchés. Ces dernières années, on en a entendu parler pour l'Éthiopie, le Soudan, peuvent être gravement touchés par les plaies de sauterelles où des milliards et des milliards et des milliards d'insectes s'abattent tout à coup sur une région verdoyante et ne laissent absolument rien. Les arbres, après le passage des sauterelles, sont complètement dénudés, comme au cœur de l'hiver. Les prés sont comme rasés par une super tondeuse qui ne laisse pas la moindre petite pousse. Et l'effet sur la végétation est tel qu'il faut plusieurs années pour que la terre recouvre sa prospérité. Les semences elles-mêmes ne peuvent plus se refaire naturellement. Donc, c'est vraiment un fléau tout à fait terrible. Ce fut la 8e plaie d'Égypte. Vous vous rappelez, dans le livre de l'Exode, nous raconte que c'est l'une des pires, puisqu'elle est arrivée en 8e position et que, en gros, ça a été de pire en pire pour les Égyptiens. Nous pouvons bien comprendre que la plaie de sauterelles était considérée comme particulièrement horrible pour le pays. Ce fut la 8e plaie d'Égypte et ce fut aussi l'occasion, semble-t-il, de la prédication prophétique de Joël. Le prophète Joël, qui vivait sans doute en Judée, probablement même à Jérusalem, et qui était fils d'un certain Petuel dont on ne sait rien, a vécu au moment d'une plaie de sauterelles et aussi d'ailleurs d'un fléau de sécheresse. Ces deux grandes données sont attestées dans le premier chapitre de son livre. Une sécheresse terrible, et dans les pays du Moyen-Orient, là encore, la sécheresse peut être terrible, bien pire encore que ce que nous avons connu en France pendant quelques mois. La sécheresse invitant, semble-t-il, facilement les plaies de sauterelles, ce qui conjugue les effets de deux atteintes mortelles pour la prospérité d'un pays. Le prophète Joël a-t-il prédit cette plaie et nous est-elle décrite comme en avance, par avance, dans son livre, ou l'a-t-il vu se dérouler probablement plus tôt, la deuxième hypothèse. Mais en tout cas, c'est le tremplin de cette double expérience très traumatisante pour le peuple de Juda, à savoir la sécheresse et les criquets pèlerins, qui a servi de tremplin pour sa prédication. À quel moment ? Probablement vers 830-825 avant Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de date qui soit donnée dans le livre lui-même. Alors, on en est réduit, comme je vous l'ai expliqué pour le livre d'Abdias la dernière fois, on en est réduit à des conjectures. On essaye de voir à quelle période correspond le mieux, d'après ce qu'on sait, le contenu du livre. Mais on ne peut pas être donc absolument sûr. Si on choisit la date de 830-825, les spécialistes évangéliques, c'est parce que dans ce livre, on ne voit pas de roi qui joue un rôle important. Il n'est même pas mentionné, le roi. En revanche, le temple est tout à fait au centre de la vie du pays et les prêtres ont un rôle non négligeable. C'est eux qui sont mentionnés plusieurs fois. Alors, ça correspond bien à la période 830-825, parce que c'était la minorité du roi Joas. Vous vous rappelez que la reine Athalie, cette reine barbare, sanguinaire, et païenne d'origine, avait essayé de supprimer toute la famille royale, mais que seul un petit enfant avait échappé. Alors quand Athalie a été abattu, c'est Joas, mais qui n'avait à l'époque que 7 ans, qui a commencé de régner. Et pendant tout un temps, le pouvoir a été exercé effectivement par le grand prêtre, par Yehoiada, le grand prêtre qui a servi de tuteur au jeune roi. Le fait que le roi ne soit pas mentionné, que les prêtres jouent un si grand rôle, correspond bien, vous voyez, à cette période. En plus, on pourrait difficilement dater le livre des siècles qui ont suivi immédiatement, du 8e, du 9e, du 6e, du 7e, du 6e siècle, parce que les grands ennemis d'Israël, les grandes puissances qui, au 8e siècle, au 7e, au 6e, ont dominé la situation, ou même encore au 5e, ne sont pas mentionnés du tout. Ni les Assyriens, ni les Babyloniens, ni les Perses. Il est question de peuple, au chapitre 4, mais non pas ceux-là. Donc, il est logique de penser que le livre a été composé avant, ou éventuellement après, mais après, ça fait vraiment trop tard, étant donné certaines autres indications du livre, d'après les spécialistes évangéliques. En particulier, il cite Abdias, il est très proche d'Abdias. Il cite Abdias une fois, le verset 17 d'Abdias, et les allusions aux exactions commises par les peuples étrangers ressemblent à celles qu'on a dans le livre d'Abdias. Donc on pense qu'il est proche. Et d'autre part, le premier verset d'Amos, après le titre d'Amos, Amos 1, verset 2, est une citation du chapitre 4 de Joël. Ça paraît bien, c'est pas dit, je cite, mais ça paraît vraiment être une citation placée comme ça en tête du livre d'Amos. Alors si Joël vient avant Amos, qui lui est bien daté, on sait qu'Amos vivait au 8e siècle, ça veut dire qu'il est venu avant, donc vous voyez, c'est la période du règne, mais de l'enfant, Joas, qui semble le mieux satisfaire aux conditions. La construction du livre est vraiment tout à fait admirable, tout à fait remarquable. Le prophète Joël montre une très grande maîtrise, à la fois dans l'usage du vocabulaire hébreu, des images, dans le détail et dans la construction du tout. C'est un charpentier, un architecte remarquable quant à la composition du livre comme un tout. Il y a deux grandes parties, et c'est commode avec notre division en chapitres. Vous prenez la Bible à la colombe, il faut prendre la nouvelle division qui correspond à celle de l'hébreu, comme dans la Bible à la colombe. Deux chapitres. 1, 2, 3, 4. Vous avez les deux moitiés de l'ouvrage. La première partie concerne le présent, au moment où le prophète parle, et un assez proche avenir. Et ce qui est d'abord en cause se situe sur le plan physique. C'est la plaie de sauterelle, c'est la sécheresse, avec tous les malheurs qui accompagnent. Et puis aussi, des promesses de rétablissement sur ce plan par le Seigneur. Et puis la deuxième partie, elle concerne l'avenir lointain. Elle est introduite par une formule un peu vague, après cela, au début du chapitre 3. Et il y a d'autres formules qui sont employées de manière habituelle dans l'Ancien Testament pour désigner un avenir plus lointain. Voici quand ces jours-là, c'est loin. Donc la deuxième partie transpose, c'est un deuxième plan, et concerne un avenir beaucoup plus lointain. L'achèvement du dessein de Dieu, je crois qu'on peut le dire, mais avec des liens entre les deux parties. Parce que c'est pas comme s'il y avait deux livres séparés, en fait. Un livre sur les sauterelles d'une part, et puis un autre livre de deux chapitres. Non, non, les deux sont étroitement soudés. Le prophète reprend les images clés que la plaie de sauterelles et la sécheresse ont mis dans son esprit. Les sauterelles sont comme un nuage qui obscurcit le ciel. C'est comme si la lune et le soleil ne pouvaient plus se voir. Eh bien, il reprend l'image au chapitre 3. La bénédiction que Dieu va envoyer pour réparer, c'est une bénédiction d'une eau vivifiante qui viendra permettre à la végétation de redémarrer. Bon. Eh bien, cette image, il la reprend dans les chapitres 3 et 4. Et à deux reprises, comme nous le verrons. Pour représenter, je l'annonce dès maintenant, le Saint-Esprit. Il parle de l'armée des sauterelles dans la première partie. Il parle d'armées, cette fois de guerriers, qui seront réunis dans la vallée de la décision,
dans le quatrième chapitre. Donc vous voyez, il a très habilement utilisé des images tout à fait caractéristiques de la première partie, qui concerne les expériences que traversait le peuple, pour parler de l'avenir plus lointain que Dieu préparait. Alors je ne sais pas si nous allons avoir le temps de tout voir aujourd'hui. Je l'aimerais, parce que j'aimerais que ce soit un tout, et nous ne nous retrouverons pas pour l'étude des prophètes avant le mois de février. Parce qu'en janvier, il y aura un institut biblique commun, ce sera très très intéressant, avec le professeur pasteur Samuel Benetro qui viendra. Donc, en janvier, nous ne parlerons pas de Joël ou du prophète suivant. Par conséquent, j'aimerais pouvoir terminer, mais si je ne termine pas, tant pis, j'en laisserai un morceau. Donc, considérons d'abord la première partie, sur le double fléau et sur la compassion divine. Le double fléau, sauterelle, sécheresse. Le texte obéit à un plan très très bien fait. Bon, on ne découvre pas si facilement tout seul. Il vaut mieux que quelqu'un guide. Mais une fois qu'on l'a vu, on dit « Ah, c'est vraiment très très bien fait ». Et je dois cette étude du plan de nouveau à notre frère Sylvain Romerowski, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Il montre quel est le plan, je vais le mettre ici sur ce tableau, pour la première partie des deux premiers chapitres. C'est un plan remarquablement symétrique, avec A, B, C, petit a, petit b, et puis A prime, B prime, pour constituer un grand C prime, B prime et A prime. Vous voyez, comme c'est beau. Vous avez une structure là tout à fait symétrique pour ces deux premiers chapitres. Alors A, qu'est-ce que c'est? C'est la désolation du pays, les dégâts causés par la plaie. Par les sauterelles essentiellement. De 1, 2 à 12. Et alors, ce que vous trouvez en A prime, vous voyez, je vais pas suivre cela, mais vous montrer chaque fois où est le symétrique. Ce qui se trouve tout à la fin de la section, à la fin du chapitre 2, correspond, c'est la réponse du Seigneur, la réparation des dégâts causés. Les mêmes mots sont repris, les mêmes noms pour les sortes diverses de sauterelles que l'on a, sortes diverses ou stades peut-être du développement, donc ça correspond. Puis vous avez en B le jeûne de lamentation. À propos des dégâts, bien sûr. 1, 13, 14. Et puis, en B prime, en l'avant-dernière section, vous avez l'appel au jeûne de repentance. Et de nouveau le jeûne. 2, 12 à 17. En C, le thème, c'est le jour du Seigneur, sur lequel je reviendrai. Le jour du Seigneur. Et ses primes aussi, c'est le jour du Seigneur. Et avec un détail, ici, le jour du Seigneur va venir, il va venir. En 1,15. Et la sécheresse. Oui, j'ai un peu modifié le plan en le recopiant, en fait. Mais bon, là, ça va marcher quand même. La sécheresse de 1,16 à 20. Puis le jour du Seigneur arrive. Vous voyez, il y a une progression ici. Il va venir 1,15. Il arrive 2,1,2a. Puis l'image du feu. Est reprise pour le déferlement de l'invasion de 2,2b à 11a, et finalement le thème du jour du Seigneur est encore affirmé en 2,11b. Donc vous voyez à quel point ce plan est raffiné, comment le prophète a su organiser l'ensemble de son discours, de sa prédication. Donc, désolation, dégâts, nous allons lire quelques versets, avec la plaie de sauterelle. Tout le monde se lamente, on jeûne dans la tristesse. Et c'est un signe du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur approche. La sécheresse en est encore un autre signe. Il arrive, le feu de l'invasion des sauterelles dévore tout. Le jour du Seigneur est terrible. Et puis, appel au jeûne, alors de repentance. 2, 12 à 17. Et réponse du Seigneur, il réparera tous ses dégâts, il rendra la prospérité. Voilà la structure pour ces deux premiers chapitres de Joël. Je ne vais pas commenter chaque verset, parce que vraiment cela nous prendrait trop de temps, mais je vais faire un certain nombre de remarques. D'abord, comme je l'ai annoncé, ce thème du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur ou jour de l'Éternel, vous savez que le mot Seigneur a été choisi dans la version grecque, et donc dans le Nouveau Testament aussi, qui utilise cette version grecque pour rendre l'Éternel. On n'osait pas prononcer le nom sacré de l'Éternel, Yahvé, et alors on remplaçait dans la lecture dans la synagogue par le mot Seigneur, et lorsqu'on a traduit en grec, on a aussi utilisé Seigneur. Et c'est comme ça aussi dans un certain nombre de versions françaises. Le mot Éternel, c'est dans les Bibles protestantes que depuis le XVIe siècle, on l'a utilisé pour équivalent du nom Yahvé, mais dans beaucoup d'autres Bibles, et en anglais aussi par exemple, c'est le mot Seigneur qui est employé. Alors on peut dire jour du Seigneur, on peut dire jour de l'Éternel. Alors le jour du Seigneur, c'est un des thèmes clés dans ce passage, comme nous l'avons déjà dit, avec une progression, 1,15, ah quel jour, le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant, et puis 2,1, sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, de nuées et de brouillard de sauterelles en fait, hein. C'est probablement, c'est pas comme le brouillard froid de ces jours-ci, et plus loin, donc au verset 11, le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable, qui pourra le supporter? Le jour de l'Éternel, c'est le jour qu'il se choisit de manière spéciale dans l'histoire, dans la suite des jours. Évidemment, en un sens, tous les jours sont à lui. C'est lui qui règne, qui détermine les temps et les moments de tout ce qui se passe. Mais le jour de l'Éternel, c'est le jour qu'il choisit spécialement pour se montrer, pour régler ses comptes, pour conclure une phase de l'histoire, ou bien alors l'histoire tout entière. Voilà comment, chez les prophètes, on pourrait définir ce qu'est le jour de l'Éternel. Pendant longtemps, Dieu semble inactif. Les gens disent, où est leur Dieu ? Et les fidèles sont obligés de patienter, d'attendre. Dieu ne se montre pas. Oh, si tu déchirais le ciel, si tu descendais. Et pendant bien des jours, Dieu voile sa présence et son règne. Il demeure en quelque sorte secret, et du coup, les hommes peuvent se moquer et le bafouer. Mais vient un jour où Dieu lève le voile. Vient un jour où Dieu se montre. Et où il tire vengeance de ses adversaires, où il sauve les siens, où il conclut une phase de l'histoire dont le jour de l'Éternel révèle alors le sens. Voilà comment les choses se présentent. Alors, le jour de l'Éternel dont il est question dans les chapitres 1 et 2, c'est le jour de l'Éternel pour clôturer une phase de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Juda. Qu'est-ce qui est frappant? Remettons-nous un peu dans la peau, en quelque sorte, des premiers auditeurs de Joël, dans ce qu'il dit de ce jour de l'Éternel. Je crois que ce qui est le plus frappant, c'est que c'est un jour désastreux pour le peuple de Dieu. Jour de ténèbres, jour de désolation, un jour qui fait trembler. Parce que les gens en Israël, ils avaient une toute autre idée, a priori, du jour de l'Éternel. L'Éternel, c'était leur Dieu. Donc le jour où l'Éternel allait enfin se montrer, il allait leur donner la victoire. Il allait leur apporter tout ce dont ils avaient envie. Oui. Dans l'Ancien Orient, on pensait de manière très très habituelle que un peuple et son Dieu, eh bien, ils étaient solidaires. Le métier du Dieu, c'était en quelque sorte de donner la victoire à son peuple. Bien sûr, il se faisait servir, parfois il était un peu de mauvaise humeur, mais foncièrement, le métier d'un Dieu, c'était de montrer qu'il était plus fort que les autres dieux en faisant triompher son peuple des autres peuples, en donnant une prospérité plus grande au pays. Et alors, en Israël, mais en Juda, il y avait bien des gens pour penser au jour de l'Éternel de cette façon. Penser à l'Éternel d'abord de cette façon. Dieu était leur Dieu, et donc ils devaient les secourir, et on pouvait attendre du jour de l'Éternel qu'il apporte la lumière de la victoire. Or, le prophète annonce le contraire. Il annonce le jour de l'Éternel comme un jour de jugement, un jour terrible. Bien sûr, Dieu ne cesse pas d'avoir compassion, et c'est associé, comme nous allons le voir, à un appel à la repentance et à des promesses aussi. Mais Dieu est un Dieu qui ne se laisse pas domestiquer, qui ne se laisse pas mettre simplement au service des humains et de leurs souhaits. Dieu est un Dieu qui ne tolère pas la vue du mal et qui, lorsqu'il y a péché, doit intervenir pour être fidèle à lui-même. Il ne peut pas bénir de la crasse morale et spirituelle. Lorsqu'il y a de ces choses qui sont pour lui des ordures épouvantables, alors Dieu est obligé de faire passer d'abord la purification du feu. C'est pour cela que le jour de l'Éternel est un jour terrible pour son peuple même. Et cela, non seulement Joël, mais d'autres l'ont rappelé, souvent avec des jeux de mots d'ailleurs. L'expression qui est traduite en 1.15 ici, « ravage du Tout-Puissant », c'est un jeu de mots en hébreu. « Chod Shaddai ». Chod, ça veut dire un ravage, une dévastation, quelque chose de violent, un bouleversement. Et puis Shaddai, c'est le nom que l'on traduit le plus souvent, Shaddai El Shaddai, comme le Tout-Puissant, bien que cette traduction soit contestée. On ne sait pas exactement ça voulait dire, mais c'est quand même à peu près ça. Et donc, le jour de l'Éternel est un Shod Shaddai. Dieu montre sa toute-puissance, d'abord en renversant ce que les hommes pécheurs ont cru pouvoir édifier et simplement faire bénir par Dieu. Oh oui, il faudrait vraiment parler de ces bénédictions que les hommes veulent. Vous savez que on a béni des canons, on a béni cérémonies. Et le Dieu biblique ne se laisse pas faire comme ça. Alors, je crois que c'est un rappel qu'il est bon aussi de faire entendre dans nos églises évangéliques, dans notre église du tabernacle. Nous sommes toujours tentés de nous fabriquer une image de Dieu comme d'un Dieu commode, qui est là pour servir nos projets, pour nous arranger dans les situations difficiles. Un Dieu que nous tendons à domestiquer, un Dieu talisman. Un Dieu est avec moi, bon, alors, je ne risque rien, je peux conduire en dépassant les limites de vitesse. Le Seigneur empêchera que j'ai un accident. Il y a des chrétiens qui conduisent vraiment comme des sauvages. Et ils croient que c'est de la foi. Alors qu'en fait, ils présument de Dieu. C'est le Dieu dans notre poche. Parce que nous mettons la Bible, le livre qui est la parole de Dieu, mais c'est le contenu qui est la parole de Dieu. Mais parce que nous mettons le papier dans notre poche, eh bien nous croyons que nous pouvons mettre Dieu dans notre poche. Et trop souvent. Donc je crois que ce rappel sur le jour de l'Éternel est vraiment important. Alors c'est lié, bien sûr, à un deuxième point dans ce texte qui est extrêmement frappant, c'est que ce sont des malheurs qui signale la venue du jour de l'Éternel et qui viennent à certains égards de lui. Des malheurs, des fléaux comme ça, des sauterelles. Dieu dit dans le passage final qu'elles étaient sa grande armée qu'il a envoyée. 2:25, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Une plaie comme ça, envoyée par Dieu. Je crois que ça nous choque. Nous sommes tellement habitués à nous lamenter devant les fléaux naturels, quand nous apprenons qu'il y a eu une plaie de sauterelle quelque part, ou une sécheresse au Sahel, ou à dire, mais c'est un mal, c'est un malheur. et Dieu qui aime les hommes doit en être attristé comme nous, que nous sommes vraiment plus du tout habitués à considérer ces fléaux comme des signes du jugement de Dieu, ainsi que Joël apprend ici à ses contemporains à les considérer. Il faut faire un commentaire, je crois, il faut donner une explication ici. C'est pas facile. Il me semble qu'on est en droit de dire qu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il me semble que quand on lit le Nouveau Testament, à cet égard même, on s'en rend compte. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un régime externe, charnel, pour employer le vocabulaire de l'Épître aux Hébreux. Il avait choisi un peuple au sens littéral, un des peuples de la terre. Il avait édifié un royaume, comme les royaumes de la terre. C'était une dispensation de type terrestre. Bien sûr, il n'y avait pas que ça, mais c'était la note dominante. Et du coup, les bénédictions de Dieu étaient des bénédictions de type terrestre d'abord, et aussi les châtiments de Dieu. Dieu, parce qu'il s'était placé à ce niveau pour préparer la venue de Jésus-Christ, dans une dispensation charnelle ou terrestre, Dieu donc donnait des bénédictions terrestres à ceux qui lui étaient fidèles et châtiait par des fléaux terrestres ceux qui lui étaient infidèles. Bon, il y avait déjà des exceptions, hein. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'en Ancien Testament c'était absolument automatique. Mais enfin, c'était quand même ça, principalement. Vous aviez Abraham fidèle à Dieu. Bon, il a eu des épreuves à coup sûr, mais il a eu des troupeaux qui ont grandi de plus en plus. Il devenait de plus en plus riche, plus en plus riche. Il a vécu très très longtemps. Et, vous voyez, et puis c'est souligné dans les textes, vous le savez bien. Des bénédictions terrestres étaient, je dirais, le régime tout à fait ordinaire sous l'Ancien Testament, en récompense de la foi et de la fidélité. Et du coup, les châtiments aussi avaient une signification presque automatique de jugement de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'en est plus ainsi. Dans le Nouveau Testament, Dieu a établi son alliance au plan spirituel, même s'il y a aussi des retombées au plan corporel et physique. L'alliance, elle est établie avec les cœurs, avec un peuple spirituel, qui n'est pas un peuple au sens littéral, le peuple des chrétiens à travers toutes les nations de la terre. Voyez. Et comme le Seigneur s'est révélé lui-même comme celui qui a souffert, comme celui qui est venu dans l'humilité et la pauvreté, le sens de la souffrance, de la privation, des malheurs a été changé en bonne partie. Je crois qu'on doit le dire dans le Nouveau Testament. On ne trouve plus que, presque automatiquement, lorsqu'un malheur arrive, on dit « le Seigneur l'envoie à titre de jugement ». Non, ça ne se voit plus, et même pour les nations, puisque maintenant il n'y a plus une nation au sens littéral, qui est le peuple en régime théocratique, lié à Dieu d'une manière privilégiée. Cela dit, donc, vous voyez, ça met une distance par rapport à ce qu'on a dans l'Ancien Testament, cela dit, je crois quand même que nous risquons d'oublier que parfois, même sous la Nouvelle Alliance, les malheurs peuvent être des châtiments de Dieu, des châtiments par lesquels il nous alerte, il veut nous réveiller, il veut montrer que nous faisons fausse route. Nous sommes ainsi faits, hein, c'est bien comme ça que nous avons la tête si dure que souvent nous ne comprenons pas autrement. C'est quand nous nous faisons mal que nous commençons à discerner que nous agissions de manière folle et qu'il faut vraiment changer. Alors, il arrive aussi, et peut-être devrions-nous, disons, au moins poser la question, quand il arrive quelque chose de sérieux, individuellement ou même collectivement, est-ce que Dieu veut nous avertir par là? Est-ce que c'est un signe de son jugement ou non? Je crois que cela peut l'être parfois. Parfois, c'est simplement une épreuve qu'il envoie pour que nous tenions bon et que nous suivions les traces du Seigneur Jésus qui n'a pas recueilli grand profit terrestre pendant tout son séjour parmi nous. Vous voyez comment il me semble qu'on peut commenter ce point, mais faisons attention de ne pas nous laisser entraîner trop par la sensibilité contemporaine de la culture d'aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans la note biblique. Troisième remarque que je peux faire dans ce texte, quand Dieu envoie le malheur, c'est pour provoquer la repentance. Là, c'est clair en ce qui concerne son peuple ici. C'est au chapitre 1er déjà, au verset 13 et suivant, que la repentance est évoquée. Sacrificateurs, revêtez-vous de sacs, soyez dans le deuil, lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Mais c'est surtout au chapitre 2 que ce thème est important. Je lis les versets 12 à 17, qui sont le grand appel à la repentance. « Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Car vous savez que c'était la façon symbolique de faire. On déchirait son vêtement quand on voulait montrer qu'on était vraiment très très affligé. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie. » Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Il s'agit là certainement des jeunes époux. Du jeune marié et de la jeune mariée, hein, c'est le début de leur lune de miel qui est ici en cause, que même ceux-là, oui, ils reviennent de leur voyage de noces pour participer à cette prière collective. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur pour qu'il soit la fable des nations ». Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Voilà cet appel, et je voudrais remarquer à son propos les caractères de la repentance que le Seigneur suscite par ce discours. D'abord, elle doit être intérieure. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. De simples manifestations extérieures, même dans l'Ancien Testament, oui, ne font rien au Seigneur, il les a en dégoût, c'est l'attitude du cœur, Dieu regarde au cœur. Vous vous rappelez cette parole que Samuel avait entendue lorsqu'il a été oindre David, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. La repentance qui plaît à Dieu, qui peut vraiment toucher son cœur à lui, c'est celle qui est intérieure. Deuxième note, elle est cependant collective. Souvent, nous nous disons que ce qui est du cœur, eh bien, c'est individuel, c'est personnel. C'est vrai. Mais alors, nous oublions que Dieu souhaite aussi que la communauté comme telle prenne position et que dans les mouvements de repentance, les membres de son peuple soient liés les uns aux autres. Moi, je suis très frappé dans ce passage, vous l'avez vu, à quel point il y a insistance sur l'implication de tous. Même les nourrissons, même les bébés, doivent venir dans cette grande rencontre, même s'ils ne peuvent rien y comprendre. Et les vieux, les jeunes, tous sont invités à être là. Ça, c'est de nouveau quelque chose qui est présent dans toute la Bible et que nous risquons d'oublier dans notre siècle individualiste. Nous oublions que nous nous appartenons les uns aux autres. Et nous croyons parfois que lorsque nous avons quelque chose à critiquer chez un frère ou une sœur, ça nous donne un peu plus de force. Ça nous rehausse, nous. Nous voyons que lui, bon, nous sommes meilleurs. Mais en fait, nous sommes fous quand nous pensons comme ça. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Si nous avons un frère ou une sœur qui fait une bêtise, ça nous touche. C'est un affaiblissement pour nous. Parce que il y a toute une dimension de notre être que d'être part d'un corps. Oui. C'est vraiment comme quand nous nous blessons à une main, par exemple, que l'autre main, eh bien, va s'en soucier et va essayer de guérir la chose parce qu'elle est concernée aussi. Le reste du corps est concerné. Tout le corps va avoir mal s'il y a une blessure qui s'infecte. C'est comme ça que nous devrions prendre ce qui arrive de mauvais à l'un d'entre nous. Oui. Parce que nous sommes membres les uns des autres. L'autre main, elle ne pense pas à critiquer celle qui est blessée en disant « Ah ah, maintenant moi, je... » Vous voyez, ça c'est la perspective biblique, la perspective de cette cohésion communautaire et elle se marque quant à la repentance que le Seigneur demande. Il y a une responsabilité individuelle qui subsiste toujours, mais il y a aussi une responsabilité communautaire. Et nous pourrions peut-être nous interroger davantage à propos de notre situation d'Église. Troisième trait, le rôle des ministres institués par Dieu. Les prêtres ici ont vraiment un grand rôle. Ils doivent conduire, ils ne doivent pas se substituer au peuple tout entier dans ce mouvement de repentance, mais ils ont un rôle spécial puisqu'ils sont évoqués plusieurs fois contre le portique et l'autel, donc dans le temple, pleurent les sacrificateurs ou les prêtres qui sont au service de l'Éternel. Alors bien sûr, il n'y a plus dans l'Église de prêtres séparés du reste du peuple de Dieu. Ça, c'était un système d'Ancien Testament qui a été abrogé. C'est dit clairement dans le Nouveau Testament. Le sacerdoce lévitique a cessé d'être. Et nous sommes tous prêtres, tous nous constituons un sacerdoce royal. Donc il y a moins de différence entre les serviteurs spéciaux, les ministres du culte dans l'Église, et le reste des fidèles qu'il n'y avait dans l'Ancien Testament entre les prêtres et le peuple. Mais il y a quand même des ministres institués, il y a quand même, c'est Dieu qui lui-même a établi dans l'Église des gens avec des responsabilités particulières, et je vois dans ce texte que Dieu souhaite que ça fonctionne. Il l'a institué, il veut qu'en effet, ces personnes qu'il a choisies et douées, en principe, ne sont pas infaillibles, mais effectivement jouent leur rôle. Voilà, il me semble une chose qu'on peut remarquer encore dans ce texte. Et puis, quatrièmement, le mouvement de repentance est symbolisé par le jeûne. Il est question ici du jeûne, comme vous l'avez vu, et il me semble intéressant de relever que dans l'Ancien Testament, le jeûne est toujours là pour symboliser, représenter l'humiliation ou la détresse. C'est un moyen d'expression au service d'une disposition de cœur, comme celle qui est demandée ici. On cesse de manger, eh bien, pour montrer qu'on n'a pas faim, on est tellement triste d'avoir offensé Dieu, on se sent tellement faible devant lui, alors on ne va pas manger, faire bonbon ce jour-là, il y aurait une contradiction. On jeûne pour montrer dans quel état d'esprit de tristesse et de dénuement conscient, pour faire appel à la toute-puissance de Dieu, on se trouve. On n'a aucune trace dans l'Ancien Testament du rôle du jeûne qui est important dans beaucoup de religions, dans beaucoup de cultures païennes, qui est le rôle d'une sorte de prouesse religieuse, spirituelle. Dans beaucoup de religions, il faut jeûner parce que c'est un moyen de pression sur la divinité, parce qu'on montre qu'on est plus saint que les autres en jeûnant. C'est un exercice spirituel. Vous savez que c'est une expression technique, les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, par exemple. Bon, le jeûne est dans beaucoup de religions un exercice spirituel. On fait de l'athlétisme religieux en pratiquant le jeûne. Je crains que dans certains milieux évangéliques, on pense un peu au jeûne comme ça. Or, je ne vois rien dans la Bible qui aille dans ce sens. C'est très curieux parce qu'il y a le jeûne, oui, c'est sûr. Il a sa place. Dans l'Ancien Testament, il n'était obligatoire qu'un jour par an, d'ailleurs. Au grand jour des expiations, il y avait un jeûne obligatoire. Autrement, il n'était pas obligatoire, mais il se pratiquait à diverses occasions, comme ici. Mais ce jeûne est toujours l'expression d'une disposition de cœur par symbolisme en quelque sorte, naturel. Je ne mange pas parce que je me sens faible et je veux exciter la compassion de Dieu en me montrant ainsi devant lui, plutôt que comme une prouesse spirituelle. Alors je crois que nous faisons bien d'être avertis à ce propos. Peut-être ferions-nous bien dans notre Église même de pratiquer davantage le jeûne, nous l'avons fait quelquefois, mais attention de ne pas le faire dans un esprit non biblique, parce que ça pourrait nous guetter aussi. Et dernier trait de cette repentance à laquelle le peuple est appelé, elle s'appuie sur la compassion de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on prie ? Parce que Dieu est compatissant. lent à la colère, riche en bienveillance. Il regrette le malheur qu'il envoie, c'est-à-dire que dès qu'il peut retirer la menace, parce que les gens se repentent à son appel, alors il le fait. Ce n'est jamais de bon cœur, dit le livre des Lamentations, qu'il afflige les enfants des hommes. Oui, il doit envoyer des jugements, mais il est lent à la colère et il revient de la menace qu'il a proférée avec grande joie, s'il le peut. Oui. Donc, c'est sur ce caractère de Dieu, le Dieu compatissant, que nous nous appuyons quand nous prions, et en particulier quand nous prions dans une situation de désastre ou de détresse, comme ici. Voilà les traits qui me semblaient remarquables à relever dans ce passage. Et alors, que voyons-nous dans notre texte? Eh bien, que Dieu, en l'occurrence, a été ému par la repentance. L'appel du prophète a été entendu, les gens se sont réunis à Jérusalem et ont déchiré leur cœur et non leurs vêtements. Et Dieu, nous est-il dit, a eu pitié. L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple, dit le verset 18. Le prophète peut l'annoncer. Alors ici, le mot jalousie est à expliquer, parce qu'il n'a pas le sens habituel du mot en français. Quand même, ce n'est pas tout à fait étranger à notre usage. La jalousie, c'est l'amour de mari amoureux du Seigneur pour son peuple. Il faut penser à la jalousie du mari jaloux, mais pas maladivement jaloux et méchamment. Jaloux parce qu'il aime. Parce que quand on aime avec véritable intensité, on ne peut pas penser partager la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre. Non, c'est tout à fait exclu. Voyez. La jalousie de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est son amour d'époux de son peuple d'Israël, qui est comme l'épouse de l'Éternel. Quand il est dit qu'il est un Dieu jaloux, ça veut dire un Dieu qui aime avec exclusivité, qui veut l'exclusivité pour lui, parce qu'il aime tellement, parce que son amour est si intense. Voyez. Et alors, il s'est ému de cette jalousie-là, de cet amour intense pour son peuple. Et lorsque la prière de repentance est venue à lui, alors il a eu pitié, et il annonce alors une réparation de tout le malheur qu'il avait dû envoyer, oui, à titre pédagogique, il avait dû l'envoyer. Il annonce que les sauterelles, elles vont être balayées, elles vont s'amasser dans une terre aride et désolée. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. C'est habituellement du nord que venaient les invasions militaires, alors sans doute les sauterelles là sont implicitement de nouveau comparées à une armée. Je le bannirai vers une terre aride et désolée, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection s'élèvera, sa puanteur s'élèvera, car il a fait de grandes choses. Il paraît que c'est comme ça, hein, quand la plaie de sauterelles s'achève, il y a des amas, des tas de sauterelles mortes, et ça commence à sentir mauvais sous le soleil. Vous voyez, et là, c'est ce que le Seigneur annonce pour ces sauterelles, mais loin. Hein, la mer orientale, c'est la mer morte, qui est à l'est, et la mer occidentale, c'est la Méditerranée, pour la terre d'Israël. Il a fait donc de grandes choses dans ses ravages, cet ennemi. Mais le verset suivant dit « Terre, sois sans crainte, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car c'est l'Éternel qui a fait de grandes choses. » Il y a une répétition de la formule et la Bible de la Colombe pense que c'est pour faire une antithèse. C'est très possible en tout cas. L'ennemi a fait de grandes choses, mais l'Éternel aussi. Et il répare en faisant de grandes choses ce que les sauterelles ont pu ravager. Alors tout va reverdir, toutes les productions du pays vont être renouvelées, les pâturages du désert reverdissent, les arbres portent leurs fruits, figuiers et vignes donnent leur richesse, et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Alors il y a les sauterelles qui sont éliminées, et la sécheresse qui est vaincue, car il vous a donné, ou vous donnera, la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Et c'est cette lui qui donne évidemment la prospérité dans le pays du Moyen-Orient. Quelques commentaires sont nécessaires à propos de cette annonce de la pluie. D'abord la formule « la pluie salutaire », c'est une traduction un peu libre. Littéralement, c'est « la pluie selon la justice ». Non pas la pluie de justice, comme dit... dit la note de la TOB que je n'ai pas apportée avec moi, mais la pluie selon la justice, alors on a compris de façon diverse, la pluie salutaire, parce que la justice de Dieu, c'est assez souvent un synonyme de son salut, la justice de Dieu qui s'établit en mettant fin aux injustices. Donc la traduction la pluie salutaire n'est pas forcément fausse, elle peut être recommandée. Mais on a compris aussi la pluie selon ce qui convient, ce qui est juste, pas trop, la bonne quantité, parce qu'il y a trop de pluie, ça devient aussi un fléau, vous voyez. Donc, juste la pluie selon le bon dosage, selon le juste dosage, on a aussi parfois compris comme ça. Ce qui est amusant, c'est que le mot pluie qui est employé ici, c'est deux homonymes, si vous voulez, peut signifier aussi l'enseignant, le maître. Et alors, on pense que si les gens de la mer morte, de la communauté de la mer morte, les Esséniens, à Qumran, ont appelé leur grand docteur le maître de justice, c'est peut-être par une allusion à ce verset. Oui, ils ont interprété la pluie selon la justice comme signifiant le maître de justice. Je vous enverrai le maître de justice. Ils se sont appropriés ainsi ce verset. Mais bien sûr, il s'agit de pluie. Et dans ce passage, comme c'est la première partie du livre de Joël, comme c'est le plan physique qui est en cause, c'est certainement la pluie au sens littéral. La pluie qui rendra sa fertilité à la terre, avec les deux périodes de pluie que connaît le calendrier de la région, les pluies d'automne, et puis les pluies de printemps, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de printemps, le premier mois, c'est-à-dire en mars, et les pluies d'automne. Ce sont les pluies sur lesquelles compte l'agriculteur, et Dieu promet de les envoyer selon la justice. Alors tiré de ce verset, parce que ça a été fait par certains, qu'il doit y avoir deux effusions du Saint-Esprit, une au début de l'histoire, l'arrière-saison, non, la première saison, et puis une autre à la fin de l'histoire, l'arrière-saison, je crois que c'est tirer une conclusion illégitime. Ici, il est question de la pluie. La pluie deviendra le symbole du Saint-Esprit au chapitre suivant, au chapitre 3. Mais le seul verset qui parle là de la pluie de l'arrière-saison, dans une prophétie, c'est celui-ci que nous avons au chapitre 2. Donc on ne peut pas tirer de la prophétie l'indication qu'il devrait y avoir deux effusions du Saint-Esprit. Cela ne me paraît pas possible. Alors à partir donc de cette promesse de la pluie matérielle qui va réparer les dégâts causés par les sauterelles et la sécheresse, alors le prophète fait rebondir son message. Il le fait passer à un plan différent, le plan de la période finale de l'accomplissement du dessein de Dieu, au chapitre 3 et 4. C'est là que vous avez la grande prophétie sur l'effusion du Saint-Esprit comme une pluie. Oui. Et puis l'annonce d'un grand combat final des peuples rassemblés. Mais nous n'avons plus le temps de le voir aujourd'hui, donc malgré le désir que j'avais dit en début de séance, je reporte cela au mois de février, Dieu voulant. La deuxième partie de Joël, et puis nous aborderons peut-être autre chose après, un prophète suivant. Y a-t-il des questions? Nous avons 5 minutes pour des questions maintenant. Puis nous... Oui.
La pluie au temps de Noé pendant 40 jours, c'était une pluie de justice?
La pluie au temps de Noé était-elle aussi une pluie de justice? Je pense qu'on pourrait le dire dans le sens de la justice rétributive, de la justice qui requiert le jugement, parce que la pluie du déluge a été une pluie selon le jugement de Dieu. Mais l'expression n'est pas employée, à ma connaissance, si je me rappelle bien en tout cas. Pluie de justice, je ne crois pas que ce soit employé pour les pluies du déluge. Et le mot justice dans l'Ancien Testament se réfère parfois à la justice du jugement. Oui, parfois, mais assez rarement. Le plus souvent, c'est la justice qu'on accueille avec joie, la justice enfin rétablie d'un ordre harmonieux des choses. Je ne pense pas que l'Ancien Testament aurait tellement appelé la pluie du déluge une pluie de justice. Y a-t-il une autre question ? Sur ce début du prophète Joël, donc, je vous recommande, si vous n'aviez pas déjà fait, de lire l'ensemble du livre, et en particulier les deux chapitres 3 et 4, pour la fois prochaine, pense que ça peut bien vous préparer. S'il n'y a pas de questions, nous allons donc conclure maintenant, Monsieur Sidamon. Alors, j'ai essayé de faire des applications tout à l'heure, en parlant des bénédictions et des jugements. Même avec les différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau, je crois qu'on peut dire que Dieu utilise encore des fléaux naturels comme signe de ses jugements, et aussi qu'il se plaît à donner des bénédictions au plan corporel et physique, et pas seulement aux chrétiens, à toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il a fait du bien aussi aux autres nations, dans Acte 14, Paul dit qu'il a fait ça pour les païens de l'Icaonie. Donc, Dieu, je pense, continue de le faire aussi. Je crois que nous ne pouvons pas écarter cet aspect de la bénédiction de Dieu. C'est de nouveau très peu commun aujourd'hui de penser selon ces lignes, bien que dans le livre de M. Kretman sur le pain et le prochain, il y a un livre de M. Jean Kretman qui souligne très fort que les pays qui ont été prospères, les pays les plus riches aujourd'hui, sont des pays où la religion biblique a été en honneur, qui ont une empreinte biblique très forte. Si vous prenez les États-Unis ou la Scandinavie, c'est peut-être pas par hasard, il y a peut-être une bénédiction sur ces pays du fait que la Bible y a été honorée plus que dans les autres. Oui. Alors là, c'est pas automatique, mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut quand même aussi considérer et envisager. Ce qui ne veut pas dire que des peuples qui ont beaucoup souffert étaient coupables, pas automatiquement, non, mais je pense qu'on peut dire que cette relation n'est pas purement et simplement annulée entre la fidélité et la bénédiction de Dieu, et à l'échelle même des peuples, il me semble qu'on peut le dire.
Il n'est pas chrétien, il n'y a même pas 1 million de chrétiens là-bas. Pourtant, on connaît une prospérité matérielle inimaginable.
Oui, mais cette prospérité matérielle, bon, quand même, le niveau de vie, je crois, des individus japonais n'est pas aussi élevé que le nôtre. Hein. Et puis, ils travaillent, hein. Les Français sont mis au régime japonais. Bon, cela dit, je pense que la bénédiction de Dieu ne s'attache pas seulement, comme je l'ai dit, à son peuple de croyants qui ont adhéré à l'Évangile. Il y a aussi un certain respect de la loi de Dieu, de la loi morale de Dieu, par exemple, qui joue. Et le respect des parents, il y a des promesses. Tu honores ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays. Eh bien, les civilisations qui respectent les anciens, les parents, à coup sûr, sont plus stables, plus heureuses, plus prospères. Je crois que ça joue pour le Japon. Moi, ça joue même à l'intérieur d'un pays comme les États-Unis. À l'heure actuelle, on remarque que les immigrés d'Extrême-Orient en particulier, mais trustent les premières places partout, enfin ça devient même un peu un problème, tellement ils ont du succès. Ils réussissent, ils sont très vite très prospères. Mais quelle est la raison principale? La structure familiale. Le respect des anciens, la discipline interne dans la famille, l'application au travail. Et on peut dire que c'est une bénédiction de Dieu pour une obéissance à des commandements de Dieu, même s'ils ne savent pas les reconnaître dans la Bible elle-même. Oui. Oui, oui. Oui, alors ça c'est un très bon correctif. Oui, il est très, très, très heureux que M. Palix nous le rappelle. Donc Jésus a souligné que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Donc vous voyez, pas de relation automatique. Et c'est pas parce que quelqu'un prospère qu'il a été fidèle, rien d'automatique. C'est pas parce que quelqu'un est dans la souffrance qu'il a forcément été infidèle non plus. Ça c'est vrai et il faut bien le rappeler. Jésus l'a dit et merci à M. Palix, notre frère Olivier, de le dire. Voilà, donc je pense que l'heure est arrivée maintenant, mais merci.